Mes premiers mots seront des mots de remerciement au professeur Pau et à l'Institut Michel Villet pour cette invitation qui m'honore, qui me fait plaisir et qui me sera certainement très utile parce que pour un auteur, c'est évidemment un cadeau de pouvoir à la fois présenter succinctement quelques idées et surtout bénéficier de l'écho que celle-ci recueille chez ses collègues. Donc mes remerciements s'adressent immédiatement aussi aux trois collègues qui me font l'immense plaisir de cette lecture. Donc en une quinzaine de minutes, vous présentez les thèses de l'ouvrage qui fait 578 pages, donc je vais essayer de relever le défi, mais vous verrez, je terminerai en répondant à la question qui est le titre du livre « À quoi sert le droit ?», j'y répondrai en quatre mots. Donc un quart d'heure, mais qui vont déboucher sur quatre mots. Voilà, j'ai entamé cette recherche il y a quatre ans, après avoir été vice-recteur de mon université pendant 10 ans, et c'était vraiment un ressourcement. Je me suis trouvé dans la position des doctorants au pied d'un Himalaya face à une question immense, mais qui s'imposait à moi et que je voulais aborder. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans comme un thésard au traitement de cette question. Sur fond d'une recherche collective et plus empirique, subsidiée par le Fonds national de la recherche scientifique belge, recherche plus empirique qui a pour objet, n'est pas terminée, la concurrence des normativités. Dans le cadre de cette recherche s'accumulaient des constats empiriques plus ou moins préoccupants quant à la concurrence du droit par toutes sortes de normes, de standards, de normes managériales, de normes ISO, de nudge, comme on dit maintenant, toutes sortes de choses qui pouvaient réduire le droit à une portion plus congrue et peut-être plus grave, pouvaient, dans certains cas, altérer ce qu'on prenait pour la spécificité du droit. D'où l'urgence de la question, mais au fond, dans ce contexte, à quoi sert le droit? Et donc le livre part de cette question et se veut un tout petit peu plus intemporel, plus abstrait, ne pas accumuler une étude empirique de plus, bien que le livre soit basé sur un très grand nombre d'exemples et de jurisprudence ou de législation récente, de phénomènes sociaux récents, prendre du recul et dire, mais au fond, qu'est-ce que on perdrait si effectivement ce constat de disparition, de déclin du droit se confirmait? Quelle est la plus-value qu'on peut prêter au droit dans les relations sociales? Qu'est-ce que le droit apporte de spécifique à la cité? Et cette question, j'ai vraiment voulu la poser dans toute sa radicalité, n'écartant pas l'hypothèse que le droit peut-être ne servait à rien ou ne servait plus à rien, et partant de l'idée qu'en tout cas le droit n'est pas premier et que donc il existe des sociétés, il a existé des sociétés sans droit. On dit ubi societas ibi ius, non, je pense ubi societas ibi regula. Il y a toujours une règle, mais cette règle, je pense qu'elle n'est pas primitivement juridique. Le droit est toujours second, j'y reviendrai. Et donc, comme Grotius pouvait poser en 1625 la question sacrilège « Et si Deus non esset ?» et si Dieu n'existait pas, eh bien, peut-être faut-il avoir le courage de poser au moins aujourd'hui cette question « Et si Ius non esset ?» Que se passerait-il si le droit n'existait pas? Alors, une fois que je me suis attelé à cette question, un premier constat qui m'a étonné, c'est paradoxalement, au moins au cours des 30 à 40 dernières années, le peu de réponses, le peu de littérature explicitement consacrée à cette question. Pour la philosophie du droit, je cite un tome des archives de philosophie du droit correspondant à un colloque mondial tenu en Espagne dans les années 70, puis on a Luhmann en Allemagne, Ferrari en Italie, Pierre Noreau, sociologue du droit au Québec, et alors plus récemment, mais c'est un signe des temps, on y reviendra peut-être, Jacques Comaille, sociologue du droit, qui publie quelques mois avant moi un livre qui a quasiment le même titre. Donc tout d'un coup, regain de cette question, on y reviendra. Et donc, peu de réponses disponibles au moment où je me mets au travail. Alors pourquoi? C'est une première question que je me suis posée. Peut-être parce qu'on recule devant la banalité des réponses qui viennent immédiatement à l'esprit. En effet, à quoi sert le droit? Réfléchissons deux secondes, on va dire à guider les comportements sociaux, à résoudre les conflits. Reconnaissons que ce n'est pas très original. Peut-être aussi recule-t-on devant les pièges innombrables qui jalonnent cette recherche. Je pense surtout à deux pièges voisins. En philosophie, c'est peut-être le danger d'un essentialisme juridique qui est passé de mode. Dès lors qu'on s'interroge sur le droit et là où les fonctions du droit, ne risque-t-on pas de sacrifier à une espèce d'essentialisme? Sur le plan sociologique, ce sont les séductions, mais aussi les pièges du fonctionnalisme, aujourd'hui souvent dénoncés, fonctionnalisme qui peut s'accompagner d'une idéologie un peu consensualiste, organiciste, enfin montrant comme tout fonctionne bien et harmonieusement dans le grand corps social. Ou alors, à l'inverse, ce qui peut décourager le chercheur, c'est l'abondance des réponses partielles. Partielle, peut-être partielle aussi, partielle. Je veux dire par là, le droit, à quoi sert-il? Daniel Lochak, qui a dirigé une recherche sur les usages sociaux du droit, répond à quoi sert le droit? À tout et à n'importe quoi. Et dans un sens, pourquoi pas? Et donc, vous voyez bien déjà, dans ce petit relevé du terrain, le double piège auquel on est confronté, qui consisterait tantôt à prêter trop au droit en l'associant aux plus nobles objectifs, aux plus nobles valeurs qui nous tiennent à cœur. Pensons aujourd'hui à la justice, à la démocratie, aux droits de l'homme. Là, je dirais, on cherche trop la barque. On ne fait peut-être plus la différence alors entre philosophie du droit et philosophie morale et philosophie politique. Est-on vraiment sûr que le droit, c'est nécessairement la recherche de la justice et de la démocratie? Ou alors, à l'inverse, le piège inverse, c'est de prêter trop peu au droit, d'en faire un simple instrument notarial de normes décidées par d'autres, ou d'y voir seulement le bras armé, la sanction des pouvoirs en place, qu'ils soient économiques ou politiques. Un certain marxisme à l'époque disait que le droit était seulement une superstructure, une sorte de voile de fumée idéologique, manipulée, agie par devers lui, par des rapports sociaux, par des rapports économiques de production, en clair, un instrument d'exploitation des classes opprimées par les classes dominantes. Donc, danger de prêter trop ou trop peu au droit. Alors, me mettant tout de même courageusement au travail, l'étape suivante consistait à faire un choix parmi les innombrables concepts qui se proposaient pour traiter la question. Je pense au concept de rôle, de projet, de finalité, de mission, d'effet et d'usage. Et puis, le concept de fonction, qui est quand même assez central quand on pose la question « à quoi sert le droit ?», le concept de fonction se différenciait lui-même. Bourdieu nous a appris à distinguer les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques. Merton nous apprend à distinguer les fonctions manifestes et les fonctions latentes. Et puis, il faut aussi parler des dysfonctions ou des fonctions négatives, des effets pervers. Bref, le champ est complexe. Alors, après avoir beaucoup tâtonné, et l'errance fait partie du travail des chercheurs, c'est un moment pénible, les doctorants le savent, mais c'est un moment fécond, donc il ne faut pas trop vite se tirer de ce moment d'errance, je me suis résolu à garder trois concepts qui allaient correspondre aux trois grandes parties de l'ouvrage. Usage, fonction, finalité, c'est-à-dire le sous-titre de l'ouvrage. Je voulais ainsi traiter ma question sous un angle résolument. Autre chose est de savoir si j'y suis parvenu. Mais en tout cas, la volonté était claire et explicite. Un angle résolument interdisciplinaire, selon une méthode pratiquée depuis quelques décennies, notamment dans le cadre de notre séminaire interdisciplinaire d'études juridiques et la revue du même nom à l'Université Saint-Louis. Voilà, peut-être que ça reviendra dans les discussions, peut-être que mon mélange n'est pas équilibré, que finalement j'insiste plus comme philosophe du droit sur les finalités, ou que décidément je reste un juriste et que c'est les fonctions techniques du droit que j'éclaire, ou que je suis trop ou trop peu sociologue en parlant des usages du droit. C'est très possible, mais en tout cas, la volonté est explicite de construire une grille d'analyse des évolutions juridiques contemporaines à l'aide de cette trilogie. Pour bien me faire comprendre d'entrée de jeu, pensons à une voiture, par exemple, et demandons-nous à quoi sert une voiture. Eh bien, on peut distinguer ses fonctionnalités, ses fonctions. Mais c'est un engin automobile qui se tracte sans chevaux, par lui-même. Ses usages sont aussi variés que ses usagers. Bien sûr, on pense à la mobilité, mais une voiture peut être une œuvre d'art. Une voiture peut servir de logement. Et l'actualité tragique de Londres d'hier nous rappelle qu'une voiture peut également servir d'arme. Finalité, quelles sont les finalités d'une voiture? Ça peut être le loisir, l'usage professionnel, le transport de personnes ou de marchandises. Évidemment, le droit est un peu plus compliqué qu'une voiture et j'ai été conduit, ça n'a pas été simple, ce sera peut-être aussi l'objet de discussions entre nous, à faire une distinction au niveau des finalités, une distinction entre les finalités extrinsèques que le droit peut poursuivre, mais qui ne lui sont pas spécifiques, par exemple la démocratie et la justice, et les finalités intrinsèques qui lui sont propres et que j'analyse comme l'inflexion particulière que l'on donne à ses fonctions pour poursuivre telle ou telle finalité extérieure. Et quand je ne pouvais pas parler de tout, dans mon livre, je dis « si nous choisissons », mais j'essaye de ne pas tomber dans l'idéalisme, je dis « si nous, politiquement et moralement, nous choisissons comme finalité extrinsèque du droit de poursuivre la démocratie, les droits de l'homme, la justice, alors, me demandais-je dans le livre, comment penser cette inflexion de ces fonctions, c'est-à-dire quelles sont ces finalités intrinsèques ?» Donc la finalité intrinsèque, c'est l'orientation particulière du droit si l'on choisit telle ou telle finalité extrinsèque. Et je m'arrête un instant pour dire que c'est vraiment là une option philosophique de base qui peut être contestée. Je n'associe pas par principe le droit avec justice et démocratie. Et je dis le droit peut aussi, hélas, mais restons lucides, ouvrons les yeux, laissons-nous instruire par l'histoire. Le droit peut aussi poursuivre, dans certains cas, d'autres finalités extrinsèques que démocratie et justice. Par exemple, le maintien de l'ordre. Par exemple, la promotion de la classe prolétarienne. Par exemple, la défense, la promotion de la race, de la pureté, de l'intégrité de la race et de son espace vital. Et je fais ici une parenthèse pour rendre hommage au très beau livre récent d'Olivier Jean-Jean, intitulé « Justifier l'injusticiable, le discours de l'ordre juridique nazi », où Olivier Jean-Jean montre très clairement à combien ce droit allemand, parce qu'il y avait du droit entre 1933 et 1945 en Allemagne, des facultés de droit, des tribunaux, des lois. Donc il y avait du droit inféodé à d'autres finalités extrinsèques, celles que je viens de rappeler. Encore un mot avant de détailler les trois axes, usage, fonction et finalité. pour me guider au cours de cette longue recherche de 3 ans, je n'ai cessé d'avoir à l'esprit, et je l'ai encore aujourd'hui, bien que le travail soit achevé, une question toute simple que je vous soumets. Ne devriez-vous retenir de cette séance que cette question ? Ben, je pense qu'on n'aurait pas perdu notre temps. C'est la question suivante. Qu'est-ce qui change quand deux personnes ou un groupe décident de passer au droit ? Donc, ces personnes sont engagées dans un rapport affectif, vivons en couple, ou nous sommes engagés dans un rapport commercial, ou dans des rapports politiques, ou dans des liens de nature spirituelle ou religieuse, donc ce que j'appelle la relation de base. Qu'est-ce qui change lorsque cette même relation passe au droit ? Qu'est-ce que c'est passer au droit ? Ben, c'est acter, par exemple, un engagement, une promesse de contrat, une promesse de fiançailles, un gentleman's agreement, un accord politique. Je ne vais pas répondre à la question, c'est beaucoup d'autres choses. C'est aussi refuser désormais la possibilité de se faire justice à soi-même. C'est désormais soumettre les différends qui pourraient affecter cette relation de base à un tiers qui nous départagera au regard d'une loi commune. Donc, qu'est-ce qui change, en plus ou en moins, en bien ou en mal, lorsque l'on passe au droit ? C'est une question quasiment phénoménologique, toute simple, mais je n'arrête pas d'y penser et d'essayer de complexifier cette question. Ça a été vraiment mon fil rouge pour répondre à ma question « À quoi sert le droit ?» Alors, quelques mots, et en gardant la montre à l'heure, sous les yeux, sur les usages, les fonctions, les finalités. Eh bien, les usages, donc perspective plutôt de sciences sociales, approche plutôt sociologique de la problématique, que je mets en premier lieu pour bien montrer son importance, les usages, me semble, du droit sont aussi variés que les usagers et les stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre, les intérêts qu'ils peuvent poursuivre. J'entends donc aussi bien les pouvoirs publics que les pouvoirs privés ou les simples particuliers. J'entends des usages qui peuvent être conservateurs, mais qui peuvent aussi être transformateurs. J'entends des usages conformes, mais aussi des usages rebelles. Donc, user du droit, c'est obéir au droit, mais c'est aussi contourner le droit, voire le détourner. Alors, voyons ça, par exemple, pour les personnes privées, les particuliers. Ben, je suppose que le législateur attend que les particuliers obéissent, se conforment à la règle, mais ce n'est pas du tout le seul usage que les particuliers peuvent faire du droit. Il y a tout le champ de la lutte pour le droit. Hering le disait déjà au XIXe siècle. Et j'insiste beaucoup dans le livre sur ce côté conflictuel qui est inscrit vraiment dans l'ADN du droit. Le droit, ce n'est pas seulement maintenir le statu quo, préserver des droits acquis, c'est aussi se trouver des armes et des instruments pour conquérir des droits, pour transformer l'état du droit positif. Je renvoie par exemple à un livre récent de Liora Israel intitulé « L'arme du droit » où elle montre combien, bien sûr, on peut jouer le droit contre le pouvoir ou tourner la justice contre l'État. Parfois ça va plus loin, ce comportement peut s'élever au comportement du rebelle, du désobéissant civil, pensez à Martin Luther King ou à Gandhi par exemple, et qui vont transgresser la loi pour promouvoir le droit, avec un grand D. Donc désobéir à telle ou telle loi pour rappeler à leurs concitoyens telle ou telle valeur constitutionnelle, tel ou tel principe juridique fondamental. Bon, tout ça sont des usages positifs et édifiants du droit, mais ne nous voilons pas la face, la condition humaine n'est pas faite que de bonnes intentions. Les particuliers peuvent aussi s'employer à détourner systématiquement le droit. Et là, je vous invite à une lecture jubilatoire de Balzac, la comédie humaine, dont de nombreux titres nous expliquent, et Balzac avait été juriste, il avait travaillé chez un notaire, dont de nombreux ouvrages expliquent comment les gens s'y entendent pour contourner les dispositions du code civil. On peut aussi abuser du droit. L'abus est une forme d'usage. Nous avons la théorie de l'abus de droit. On peut aussi utiliser le droit dans un but de corruption. Il s'agit là de faire accord avec une autorité publique pour se réserver un privilège, une loi privée, une sorte de court-circuit qui va, à mon avantage personnel, privatiser l'application de la loi, réserver une exception en quelque sorte, au détriment de l'intérêt général. C'est encore un usage évidemment peu recommandable et très grave, je trouve, parce qu'il dénature avec le droit, il le fait déchoir de sa position tierce avec la complicité active d'une autorité publique. Parfois, le détournement est gravissime. On peut penser que les nazis, par exemple, sont arrivés au pouvoir en détournant les libertés politiques de la République de Weimar pour arriver finalement à un but liberticide. C'était Goebbels qui disait « Ce sera toujours la plus grande farce de la démocratie que d'avoir fourni à ses ennemis mortels, c'est-à-dire à nous les nazis, les instruments qui auront permis de mettre à néant cette démocratie. » Et puis finalement, il y a une troisième variété d'usage du droit par les particuliers qui vise ce que les sociologues du droit appellent, l'expression est de Carbonnier, je crois, le droit vulgaire, c'est-à-dire la manière dont les gens, connaissant plus ou moins le droit, se le réapproprient à leur façon, le mettent à leur sauce, si j'ose dire, et se bricolent en quelque sorte des statuts juridiques à leurs mains qui ont présenté un air de famille avec le droit, mais qui ne sont pas strictement juridiques. Les politiques font ça aussi, ça a été beaucoup étudié en Belgique sous la forme de la paralégalité. Voilà, je ne serai pas aussi long pour les entreprises ou les pouvoirs publics. Pour les entreprises, j'insiste sur les usages de lobbying. On fait pression sur le droit. On multiplie les procès orchestrés pour obtenir une inflexion de la loi, une interprétation plus favorable à leurs intérêts. Et puis surtout, et ça c'est très préoccupant, Alain Supiot en parle dans ses ouvrages récents, cette pratique du law shopping, forum shopping et law shopping, cette capacité qu'ont les principaux acteurs économiques transnationaux de choisir le tribunal ou débattre de leurs affaires. Alors là, c'est vraiment, je trouve, très, très, très préoccupant. Je fais allusion à des ouvrages publiés par des éditeurs juridiques en 2013 chez Breulin-Clarcier, un ouvrage intitulé « Stratégie d'instrumentalisation juridique et concurrence ». Et l'année d'avant, « Lobbying et procès orchestrés ». Donc vous voyez des stratégies d'entreprise pour faire pression sur le droit. Pour les pouvoirs publics, on leur demande de se conformer à la loi, on leur demande de créer du droit, mais à côté de ça, vous connaissez bien aussi les effets d'annonce typiques de l'État spectacle, ou encore toutes ces formes de bricolage de solutions juridiques comme une ressource parmi d'autres dans une stratégie ou dans un jeu politique, et certainement pas par amour du droit pour lui-même. Voilà, j'en ai déjà trop dit sur ce premier chapitre. Deuxième chapitre, les fonctions du droit. Là, je mets ma casquette de théoricien du droit. Et je pars de l'idée, déjà évoquée tout de suite, je pars de l'idée que le droit est toujours une institution sociale seconde. Il ne vient jamais en premier lieu, comme les anthropologues, les ethnologues et même les historiens du droit nous le rappellent. Le droit est une institution seconde. Et donc, je fais mienne la thèse de la double institutionnalisation. Le critère du passage au droit, nous expliquent les historiens, les anthropologues, c'est lorsque les coutumes, les règles sociales primaires sont reformulées par une autre instance, qu'on appellera alors juridique, et arbitrées par des personnages nouveaux qu'on appellera les juges. Alors je revisite cette théorie de la double institutionnalisation, je la complexifie un peu, et surtout je pointe sa traduction en théorie du droit moderne avec la théorie bien connue de l'anglais Herbert Hart, la théorie de l'articulation des normes primaires et secondaires. En tout gros, à la grosse louche, les normes primaires qui reformulent les normes sociales tirées de l'économie, de la politique, des mœurs, hein, et les normes secondaires qui sont des métanormes instrumentales par lesquelles le droit s'auto-organise, surtout à partir du moment où ce droit se complexifie et devient un système juridique doté alors de règles, comme dit Hart, de reconnaissance relative aux sources du droit et à la validité, des règles de sanction en cas de conflit, des règles de changement pour permettre d'abroger, de modifier plus rapidement les règles. Je reprends à mon compte cette mécanique hartienne en essayant de la complexifier quelque peu, et surtout je la transpose à ma problématique à quoi sert le droit, en distinguant des fonctions primaires et des fonctions secondaires. Les fonctions primaires consistent à reprendre les normes et les valeurs sociales fondamentales que le droit estime nécessaire de devoir reprendre. Je parle à cet égard de fonctions de pilotage. Comme le temps avance, je ne développe pas, mais peut-être que j'y reviendrai dans la discussion. Et puis à côté de ça, on a des fonctions techniques, de métanormes, des fonctions d'archivage, d'arbitrage, de repérage, par lesquelles le droit s'auto-organise. En synthèse de ce point, quelles sont les fonctions du droit? Mais je dis, le droit tisse des liens, fixe des limites et établit des mesures. Fonction de tissage, de bornage et de mesurage. Et ce n'est pas dans le cadre de l'Institut Michel Villet, en référence aux écrits de Michel Villet, que l'on pourrait ignorer que le droit est mesure. Il me semble me rappeler que Michel Villet, tout au long de ses écrits, a insisté sur cette idée du droit comme instrument de mesure entre les personnes et les choses. Donc, tout ça est fondamental, je m'en explique dans le livre. Mais je rappelle, en concluant cette deuxième partie, que chacune de ces fonctions peut faire l'objet, pour simplifier, de bons ou de mauvais usages. Les mesures peuvent être de fausses mesures, elles peuvent être forcées, elles peuvent être biaisées. Les bornages peuvent s'avérer tyranniques lorsque on va corseter le corps social dans un filet de règles trop impératif. Le tissage des liens peut se faire lâche lorsque le tissu se détricote et que les liens se défont. Donc chacune de ces fonctions, à ce stade-ci, sont encore relativement neutres, d'où la nécessité de passer alors à ma troisième partie qui occupe la plus grande partie du livre, c'est-à-dire la partie plus philosophique relative aux finalités intrinsèques du droit, qui, je le répète, ne sont pas les grandes finalités extérieures, droit et démocratie, mais qui sont la manière dont le droit met ses fonctionnalités à l'œuvre pour atteindre ses objectifs extérieurs. Alors là, je me suis beaucoup réfléchi à comment répondre à cette question, et finalement j'arrive à un faisceau de trois finalités, mais qui n'ont d'intérêt que si elles sont dialectiquement liées. Donc je vais vous les énumérer, mais je vous demande instamment de les penser ensemble, car l'une d'entre elles s'absolutiserait-elle au détriment des deux autres, que l'équilibre recherché serait rompu et qu'on ne tarderait pas à être confronté à des problèmes, à des dysfonctions. Alors, ne vous attendez pas à des choses extraordinaires. Le problème, c'est parfois de savoir redécouvrir la fraîcheur et la jeunesse et la valeur, surtout, d'idées qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais qui ont été usées par le temps, qui se sont banalisées. Donc, il faut redécouvrir la valeur de ces idées, peut-être qui ne sont pas nouvelles, mais qui n'en restent pas moins importantes. Alors, quelles sont finalement ces trois finalités intrinsèques? 1. Encadrer, définir un équilibre social global entre tous les intérêts et toutes les valeurs en jeu et en conflit dans le corps social. 2. Un équilibre donc définir cet équilibre, mais un équilibre pas n'importe lequel, qui soit susceptible d'être imposé par la contrainte lorsqu'il le faut. C'est l'aspect force, sanction, contrainte, qu'il faut savoir penser. Il ne faut pas avoir de pudeur à cet égard. Le droit, c'est aussi cela. Il y a un très beau livre que Olivier Baud m'a conseillé de Vigouroux sur la force du droit qu'il faut lire et intégrer dans la réflexion. Et enfin, troisième finalité intrinsèque, cet équilibre, il faut aussi qu'il soit susceptible d'être remis en cause, d'être remis en question dans les formes et les procédures légales. Donc à la fois un équilibre imposé par la contrainte, mais en même temps toujours susceptible, et c'est très original, j'avoue que c'est la qualité du droit qui me plaît le plus, toujours susceptible d'être rediscuté dans le cadre d'un conflit, mais d'un conflit réglé lui-même par des procédures. Alors, pour terminer, quelques mots sur ces trois finalités. L'arbitrage social général, ben là nous sommes en terrain connu, je vous renvoie à l'image de la balance, il faut aussi savoir redécouvrir la valeur de cette allégorie, la balance, la pesée des intérêts, le principe de proportionnalité, on est là au cœur de l'ADN du raisonnement juridique. Deuxième remarque, l'équilibre dont je parle est bien un équilibre macro, général, entre tous les intérêts et les valeurs sociales. Tout à l'heure, je raisonnais en me demandant, mais qu'est-ce qui se passe lorsque telle relation primaire passe au droit, une relation affective, une relation commerciale. Mais le droit, c'est plus que cela. C'est pas seulement le passage de l'un à l'autre, c'est l'arbitrage général entre tous les jeux. C'est un macro-arbitrage entre tous les langages et tous les jeux. Le politologue français Patrice Durand parle à cet égard d'un rôle de coordination ou de médiation générale du droit. Et le philosophe Jürgen Habermas parle du droit comme un mécanisme de traduction générale. Et j'aime beaucoup cela. La société, c'est un ensemble de sous-langages. Le langage technique, le langage médiatique, le langage industriel, le langage politique. Eh bien, le droit, c'est la langue maternelle, c'est la langue usuelle dont on attend qu'il soit en mesure de réaliser la traduction de tous ces sous-langages, aussi ésotériques soient-ils. Et les sociologues Boltanski et Thévenot parlent des compromis qui s'établissent à la frontière, à l'interface entre les différentes cités qu'ils distinguent. Troisième et dernière remarque que je fais à propos de cet arbitrage général, quand je dis arbitrage ou équilibration, il ne faut pas penser à une médiocre voie moyenne, à des compromissions entre intérêts concurrents. Si possible, puisqu'ici je suis au plan normatif, donc le plan idéal, si possible, pensons cette équilibration comme une sortie par le haut, comme un compromis et pas une compromission. Et là, dans le livre, j'analyse, par exemple, chez Rousseau, le passage de la volonté de tous, qui n'est que la somme des intérêts particuliers, à la volonté générale, qui suppose véritablement une propriété émergente, un saut qualitatif, un changement de niveau. Il y a vraiment quelque chose de métaphysique, mais cette métaphysique-là, elle est à la base de la cité. Ou alors, je donne l'exemple de Paul Ricoeur, qui, à la fin de sa vie, a beaucoup travaillé avec les juristes et réfléchissait à la question du jugement et à quoi sert le juge. Et il montre bien que le jugement, ce n'est pas seulement attribuer à chacun ce qui lui revient, ce n'est pas seulement dans une logique de donnant-donnant compenser des torts. Le jugement, c'est aussi, dans sa fonction longue, plus exigeante, restaurer la paix sociale, renouer le lien social. Et donc là, on passe à un niveau supérieur. Un mot sur la question de la contrainte. Le droit ne définit pas des équilibres de façon académique. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et donc nous vivons dans un monde conflictuel avec des intérêts fortement opposés. Et donc, il faut que le droit soit en mesure d'imposer ses choix. Il y a une violence dont il ne faut pas se cacher, inhérente au droit, mais c'est celle dont parlait Max Weber, qui parlait du monopole de la violence légitime propos de l'État et du droit. Alors pourquoi légitime ou à quelles conditions légitime ? Légitime si l'autorité se soumet elle-même aux règles en vigueur et si ces règles restent encadrées par, si l'usage de cette force reste encadré par des règles de droit. Je viens de redéfinir les conditions minimales de l'état de droit qui est de nature, lorsqu'il fonctionne, à générer la confiance, l'adhésion des citoyens à ce mécanisme. Vous allez dire que là, décidément, je verse dans l'idéalisme et l'angélisme. Non, je n'oublie pas une seconde tout ce que je disais tout à l'heure, des usages, des contournements, des détournements, y compris par les autorités elles-mêmes, l'actualité est éloquente, y compris par les autorités elles-mêmes, les détournements de ces règles. Donc je n'oublie pas une seconde que ça existe, mais ce n'est pas une raison, parce que le droit peut être dénaturé ou détourné, d'ignorer que la vocation normative est inscrite dans ces gènes. Le droit a vocation produire cette confiance par le respect de l'état de droit. Et finalement, troisième finalité, cet équilibre n'est pas seulement imposé par la force, il doit pouvoir être à tout moment rediscuté dans les formes. C'est ce que Carbonnier disait lorsqu'il parlait du droit comme d'une mise en question organisée ou encore d'une institution de la contestation. Et ce n'est pas à des juristes que je dois le rappeler, ben, la vie quotidienne du droit est faite de quoi ? Elle est faite de controverses doctrinales, de revirements de jurisprudence, d'abrogation de lois, d'amendements apportés à des contrats, de révision des traités. Et le droit est tout rempli de mécanismes, je trouve ça fascinant, combien rares sont les discours sociaux, combien rares sont les dispositifs normatifs à disposer de ce genre de mécanismes. Le droit est tout rempli de mécanismes d'autodistanciement, de neutralisation, d'exception, de dérogation, de suspension, d'équité, vous connaissez tous ces mécanismes, montrant que le conflit, mais un conflit positif, est le moteur vraiment du progrès du droit. Alors, un mot de conclusion, finalement, à quoi sert le droit ? Le droit sert à redoubler dans son langage propre, avec toutes ses fonctions propres, une relation sociale primaire, mais celle-ci ne nous satisfera, ne nous paraîtra légitime que si toute l'opération, donc la première opération c'était le passage du 1 au 2, on redoublait la relation primaire, tout cela n'est légitime que si on s'est passé du 2 au 3, c'est-à-dire que si toute cette opération s'opère sous l'égide du tiers. Le tiers, donc le juge dont on voudrait qu'il soit impartial, et la loi dont on voudrait qu'elle soit une référence commune à tous. Alors, je vous avais promis de répondre à ma question en quatre mots, eh bien, si vous me forciez vraiment, je répondrai à quoi sert le droit, je réponds à compter jusqu'à trois.